Alors, la méditation que je vous propose ce matin, c'est autour d'un verset dans la Bible qui se trouve en Ecclésiaste. Il dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Avant de méditer ce petit verset, je pense qu'il vaut mieux qu'on lise un petit peu ce que l'Ecclésiaste a dit avant et un petit peu ce qu'il a dit après. Alors c'est Ecclésiaste, on va commencer chapitre 10, verset 18, jusqu'au chapitre 11, verset 8. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense au jour des ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Je vous pose une question. Que peut m'enseigner ce verset? Quelle place peut-il avoir dans une méditation de dimanche matin? Est-ce que quelqu'un a le courage de me dire, en gros, juste en quelques mots, que peut m'enseigner ce verset? Non? Personne ne sait? Oh oui, vous savez tous, mais vous ne voulez pas parler. Méfiez-vous, parce que si j'attends, on peut attendre longtemps. Le pain ne coule pas. Il reste sur la surface des eaux. Mais qu'est-ce qu'il m'enseigne? Quel enseignement puis-je avoir de ce verset? La persévérance, la générosité, la bienfaisance. Il y en a d'autres? Généralement, quand on pose cette question, bon, je sais que vous avez tous la générosité, la bienfaisance, s'occuper des pauvres, des malheureux dans votre tête, mais vous n'osez pas, vous êtes timide, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas le dire. Mais il est vrai, quand on pose la question, la plupart du temps, on pense à ça. Eh bien, tous les commentateurs n'y pensent pas à ça. Je vais vous donner ce que d'autres personnes pensent, pour revenir après à ce que moi je pense. Pourquoi? Pas pour perdre du temps, juste pour la simple raison, pour vous, que si un jour vous êtes en train de lire un commentaire biblique un peu tordu ou un peu dur à comprendre ou très profond, vous pourrez être amené à écouter des choses que vous n'avez pas l'habitude. Et là, je vais vous citer, avant de parler de la bienfaisance, de la générosité, je vais vous citer deux autres manières de voir le texte. Il y en a un qui pense que c'est une leçon d'agriculture pour bien réussir sa moisson. Déjà, le pasteur nous fait. Et je suis d'accord avec lui. Mais il y en a qui le pensent. Et on va voir en quelques minutes pourquoi ils le pensent. Il y en a un deuxième qui dit c'est un esprit d'entreprendre pour bien gagner sa vie et se prémunir des aléas. Là, c'est une idée que vous allez voir, quand je vais vous l'expliquer, ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu. Et la troisième idée sur laquelle j'adhère, et c'est celle-là que je mettrai plus de temps à parler et à méditer ce matin, c'est pratique de bienfaisance, pratique de générosité. Commençons par la première, le sens d'agriculture pour mieux réussir sa moisson. Ben, il y en a qui connaissent bien leur Bible, des théologiens, des commentateurs. Et dans Ésaïe, il y a deux paragraphes, deux versets qui parlent un petit peu de la même manière que ce qu'on vient de dire et qui nous laissent penser que ça peut être ici un conseil pour les agriculteurs pour qu'ils puissent bien travailler, moissonner et réussir leur moisson. Si on prend Ésaïe chapitre 28, verset 28, c'est le même mot hébreu qu'on traduit ici par pain, que là-bas il est traduit par le mot blé, la graine de blé. C'est exactement le même mot. Et ce texte dit, on bat le blé, mais on ne le bat pas toujours, on y pousse la roue sous le chariot. Et un peu plus loin, en Ésaïe chapitre 32, verset 20, quand Dieu fait des promesses d'avenir à son peuple, il lui dit, bienheureux serez-vous, vous sèmerez partout le long d'eau abondante et vous pourrez laisser les bœufs comme les ânes en liberté. C'est pour cela que certaines personnes pensent à la pratique égyptienne. Vous savez qu'en Égypte, après une période de sécheresse l'été, il y a la période des grandes crues du Nil. Et le Nil, quand il montait, quand il débordait, c'était une bénédiction pour les Égyptiens. Ils attendaient ça. Et ils avaient comme habitude, justement, quand l'eau déborde, avec tout le liment, tout ce qui est bien pour la nourriture, pour les plantes, où il y avait de la terre bien riche qu'il amenait avec lui, le Nil, c'est sur les eaux qu'il commençait à semer, sur la surface des eaux. Et comme ça, les bœufs, les ânes, ils n'avaient pas à labourer. Se fatiguer, il n'avait qu'à marcher sur les eaux pour que les graines rentrent dans la terre. Et quand le Nil, une fois qu'il a débordé et qu'il a laissé le liman, toute cette terre riche qu'il amène avec lui, se retire, sur les terres cultivables, ils avaient déjà semé leurs semences et ils n'avaient pas besoin de labourer, de se fatiguer. Donc c'était une pratique. Et là, ce qu'il pense, ce commentateur, avec ce texte d'Ésaïe, que plus tard, quand le Jourdain va déborder, quand il va y avoir de l'eau en abondance, donc comme une promesse, ils vont pouvoir moissonner sans fatigue, ni eux, ni leurs animaux. Et là, il est en train de leur donner un conseil, ben, quand le Jourdain déborde, vous pouvez moissonner parce qu'il apporte avec lui de la bonne terre et vous allez pouvoir avoir une bonne moisson. Je ne m'y attarderai pas, vous allez voir qu'un peu plus tard, je vous dirai pourquoi ce n'est pas le but de ce texte, sûrement pas. Mais il n'y a pas que cette explication, il y en a une deuxième. Il y en a un autre qui dit c'est un esprit d'entreprendre pour bien gagner sa vie et se prémunir des aléas. Vous savez, quand on fait des prédications, quand on apprend à analyser un texte et à faire des prédications, la première chose qu'on nous apprend, un texte, il ne faut pas le prendre tout seul. Il faut le prendre déjà dans son contexte, dans le contexte de pourquoi il a été écrit et pas en prendre un verset tout seul et en faire tout un exposé, mais le prendre dans son contenu, dans tout le chapitre. Et cette personne au lieu de s'arrêter, comme on a l'habitude de s'arrêter, chapitre 11, verset 1 à 3, puis l'autre verset 4 à 6, les lire après, il les met tous ensemble pour former un paragraphe. Et à ce moment-là, regardez un petit peu, sans rien toucher à la Bible, ce qu'on peut lire, c'est on les met tous ensemble. On les jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut y arriver sur la terre. Il continue, celui qui observe le vent ne sèmera point, celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Patati, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Donc, en le prenant dans son contexte global et toujours en faisant référence à Ésaïe, chapitre 18, verset 2, où Ésaïe, quand il parle sur les eaux qui passent dans Ésaïe, il fait référence aux navires qui vont et qui font des commerces. Donc, le pain ici, c'est mon bien, c'est le blé que je fais fructifier en le vendant ailleurs, en imposant de l'import ou de l'export, comment le faire. Et pour bien gagner sa vie et bien réussir dans son entreprise. Un petit peu, un peu comme on dit, hein, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier quand on fait quelque chose pour réussir, au cas où quelque chose ne réussit pas, mais un autre peut réussir. Et à ce moment-là, il traduit ce monsieur, « Fais confiance à tes biens au loin sur la mer, un jour tu en récolteras des bénéfices, et il continue. » Exactement la même chose. Et quand, pourquoi il en faut faire beaucoup d'investissements? Parce que c'était risqué d'envoyer dans la mer, dans les navires du commerce, il y avait les pirates, il y avait les naufrages, les tempêtes, ainsi de suite. Et du jour au lendemain, on peut tout perdre. Alors il dit, bon c'est bien. Faites du commerce, mais ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, en gros. Fais de la diversification parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut marcher et qu'est-ce qui ne peut pas marcher. On ne va pas perdre plus de temps là-dessus, on va s'arrêter là. Et je vous dis pourquoi je ne pense pas que c'est ni le premier ni le deuxième qu'on peut retenir dans notre méditation ce matin. Je le dis juste pour que vous le connaissiez, parce que vous pouvez être amené à lire ça dans des références ou dans des commentaires que vous pourrez lire un jour ou l'autre sur le livre d'Ecclésiaste. Comment, posons-nous la question, un juif, un moyen comme nous aujourd'hui qui lit le texte, que comprendra-t-il de ce texte? Est-ce qu'il va comprendre qu'il faut qu'il investisse, qu'il veut gagner, fructifier sa vie, ou bien il va comprendre autre chose? Les commentateurs ont raison, ou les facultés de théologie, quand on nous enseigne à faire une prédication, ils ont raison. On ne doit pas prendre un texte seul. Ça, ils ont raison. On ne doit pas prendre un verset tout seul et en bâtir toute une théorie. Et quand on dit qu'il faut le prendre dans le contexte global, on peut aussi se poser la question, oui, mais il faut qu'on le prenne dans le contexte global de l'Ecclésiaste. Or, qu'est-ce qu'on voit dans Ecclésiaste? Dans Ecclésiaste, on voit bien quelqu'un qui a essayé de vivre, qui a essayé de faire fructifier son argent, de vivre bien dans la joie, dans la réjouissance. Et qu'il a trouvé que ce n'est que vanité et poursuite du vent. Au chapitre 5 de l'Ecclésiaste, on voit bien qu'il dit que à quoi ça sert de ramasser son argent? Tu ne sais pas qui va l'avoir après, à qui tu vas le donner, à qui va s'en servir, qui va l'utiliser. Et en gros, il fait référence un petit peu le fait que ce ne sert à rien d'amasser son argent pour soi, mais qu'il est bien de faire profiter les autres, au chapitre 5 d'Ecclésiaste. Et c'est pour cela que je vous ai lu, qu'on a lu ensemble, pas uniquement ces versets, mais on a commencé au verset 18, au chapitre 10, verset 18. Parce que là, il va donner 5 conseils. 5 conseils que si on les reprend un par un, c'est peut-être le résumé des 10 autres chapitres et des recherches qu'il a faites sur la vie, et il va finir par donner ses 5 conseils pour vivre heureux, et il va finir en apothéose au chapitre 12 de dire « Réjouis-toi, livre ton cœur à la joie, mais sache que de tout cela, un de ces jours, quant à Dieu, tu vas rendre. » Donc, après tout ce qu'elle a dit, il va donner des conseils. Et comme il en a parlé au chapitre 5, et que dans la Bible en entière, et on va le voir, la place du pauvre, elle a une très grande place dans le cœur de Dieu. Et dans le cœur de la parole de Dieu, je ne peux pas comprendre que l'Ecclésiaste n'en a pas profité pour donner un conseil de bienfaisance, un conseil pour les pauvres, de générosité envers tout le monde. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas le lier aux autres, il faut qu'on le prenne seul, ce verset ou ce paragraphe. 11, 1, 2 et 3. Alors allons-y, et c'est là ma pensée. Pratique de bienfaisance, de générosité. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le trouveras. Qu'est-ce qu'on remarque avant toute chose? Le mot « jette ». Jette ton pain. Jette ton pain. Le nécessaire pour vivre. Ton bien, ce que tu as pour vivre. Nous, c'est l'argent, eux, c'était leur pain. Jette-le, tout ce que tu as. Lance un acte de foi, car dans ce geste de lancer, il n'y a pas du tout une attente de retour. Il n'y a même pas une pensée. On sème pour récolter. Hein? On sème, on jette, on ne dit pas « je jette le blé ». Je sème pour récolter. Mais on jette pour se débarrasser de quelque chose. Jette sans t'attendre à un retour. C'est la première remarque, c'est la première chose où on peut regarder, où on peut voir. Jette ton pain sans retour. Lance-le. Le jette où? Sur la face des eaux, sur la surface des eaux. Mais si je jette mon pain sur la surface des eaux, il va être complètement perdu. Artin, il a raison, il ne va pas tomber, mais petit à petit, l'eau va rentrer, il va se disloquer. Et là, il va couler. Encore heureux, il n'y a pas quelqu'un qui a dit « c'est une manière de pêcher hein, ». Parce que les pêcheurs, ils jettent des appâts pour que les poissons viennent, et après, ils ont l'habitude de venir, et après, il vient avec son filet, il les emporte. Ce n'est pas le but, là, hein. Ce n'est pas le but. Jette ton pain à la surface des eaux. Il va se perdre. Il va se disloquer. Il va partir. Il va partir. Il va se disloquer. Donc, donne sans attendre de retour. Donne sans attendre de retour. J'ai toujours dit que dans les Proverbes, dans l'Ecclésiaste, si vous lisez bien, si vous analysez ces deux livres, vous en trouvez un écho partout dans la Bible, y compris du Nouveau Testament. Comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et bien des fois, dans les lettres de Jacques ou de Paul, quand ils reprennent comment la vie commune, en fait, il n'y a qu'à lire les Proverbes. Il n'y a qu'à lire les Proverbes. Qu'à lire l'Ecclésiaste un petit peu pour avoir cette connaissance. Et là, en Luc, que dit Luc, si vous faites du bien, enfin, c'est Jésus qui le dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande. Le proverbe mondain, le dicton mondain, on ne prête qu'aux riches, n'a pas de place dans la Bible. N'a pas de place dans la Bible. Prêtez, faites le bien sans rien espérer en retour. Et là, c'est ce qu'il dit, Ecclésiaste, jette ton pain à la surface de l'eau, même s'il va se disloquer, même s'il va partir, même si tu ne le verras plus, il va être mangé par les poissons. jette-le sur la surface de l'eau. Jette-le sur la surface de l'eau. Jacques dit pareil dans la lettre de Jacques. Il dit, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu et lorsque nous voyons nos frères dans le besoin, nous ne faisons rien d'utile? Et on lui dit, va en paix. Son problème est-il résolu? Dit l'apôtre Jacques. Bien sûr que non. Il ne sera pas résolu. Avançons dans notre réflexion. Et que dit? Je n'arrête pas de dire, jette sans retour, sans attendre de retour. Même si tu vas le perdre, de toute façon, tu vas le perdre. J'arrête pas de le dire depuis le début. Et pourtant, que dit le passage? Que dit le verset? Tu le retrouveras. C'est un peu compliqué parce que ici, ce n'est pas semer, c'est jeter. Ici, un endroit où je ne peux plus récupérer. Et ici, qu'est-ce qu'il me dit? Tu le retrouveras. Il n'est pas en train de dire probablement tu le retrouveras. Jette-le, on ne sait jamais, peut-être un jour il te reviendra. Peut-être, non. Tu le retrouveras. Le texte est formel, je ne sais pas si vous lisez comme moi. Le texte est affirmatif. S'il est bien affirmatif ici, jeté, un endroit où je ne peux pas récupérer, il est aussi affirmatif qu'un jour on le retrouvera. Lisons quelques passages dans les Proverbes. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Ce n'est pas peut-être il sera béni. Sera béni. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Il y en a, vous pouvez chercher. Je ne vous ai pas tout donné, sinon on n'en finit pas. Mais je peux vous assurer, il n'y en a pas un verset où il n'y a pas une assurance, où il n'y a pas quelque chose de sûr. Mais comment je vais recevoir? Comment je vais recevoir ce retour? Le Proverbe 19:17 nous le dit. Il nous dit, qui a pitié du pauvre prête à qui? À l'Éternel. Parce que quand on le fait, on ne le fait pas pour la personne elle-même. On ne fait pas pour en avoir un retour de la personne elle-même, à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Et c'est là le comment. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire il faut donner aux pauvres pour que le Seigneur nous le rende. Hein? Je ne suis pas en train de dire ça. D'accord? Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Tout ce que je suis en train de dire, c'est la promesse de Dieu pour nous. Et c'est ça qui est important. Celui qui tiendra sa promesse, ce n'est pas mon frère, ma sœur. Je ne lui demanderai rien à lui. Je ne demanderai même rien à Dieu, mais lui, il rendra selon son œuvre. Je veux insister, excusez-moi, je ne veux pas que ce soit mal compris. Je ne suis pas en train de redire que c'est dans l'obligation que Dieu nous donne, ou bien que je donne pour que Dieu me redonne en retour. Ce n'est pas ça qu'on le fait, mais c'est quand même une promesse. Mon acte à moi de foi, c'est jeter sans retour. Mais je sais une chose, que Dieu bénira, Dieu rassasiera, Dieu bénira d'une manière ou d'une autre et il rendra selon son œuvre. Peut-être pas en argent qu'il le rendra, Dieu le rendra comme il voudra, de la manière où il voudra. Un individu, un pays, une église ne peuvent prospérer que s'ils prennent soin de ceux qui sont dans le besoin. Quand je dis prospérer, je ne pense pas à l'argent. Je pense en toute chose, en communauté, en nombre, en joie d'être ensemble, en bienheureux, en vie heureuse. Je ne parle pas de l'argent quand je parle de prospérer. On ne peut prospérer une église, un individu, même un pays, que si on prend soin de ceux qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Et c'est partout dans la Bible, prendre soin les uns des autres. La semaine dernière, il y a une question qui a été posée par Gabriel. Il a dit qu'il en a cité Luc chapitre 18, verset 22, quand il a dit « Est-ce qu'on doit tout vendre pour donner aux pauvres ?» Il n'a pas eu le temps de la traiter, je pense. Ben, je vais la traiter ce matin. Posons-nous la question. Faut-il tout vendre, tout donner ? C'est une bonne question. Est-ce que ça ne vous est pas passé par la tête quand vous lisez Luc ou quand vous lisez Actes ? Il y a deux endroits dans la Bible qui peuvent peut-être nous amener à penser bien à cette question. Faut-il tout vendre, faut-il tout donner? La première, c'est dans Luc chapitre 18, verset 22. Vous connaissez tous, je pense, bien cette histoire du riche qui vient et qui dit à Jésus tout ce qu'il fait du bien. Et Jésus était très heureux, il lui dit « mais il ne te manque plus rien ». Tout ce qu'il te manque, c'est de vendre ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens me suivre. Et là, Jésus ayant, et là, il ne pouvait pas. Il dit aux pauvres dans les cieux, puis viens et suis-moi. Et il n'a pas voulu. Je ne vous ai pas mis le verset, j'ai oublié. Mais le texte nous dit, il est parti triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Et Jésus était triste de cela. Et Jésus était attristé de cela. Avant d'attaquer donc Actes, on va y revenir, étudions d'un peu plus près ce passage. Premièrement, rappelons que ceci a été demandé aux riches. À cette personne, Jésus le lui a demandé. Il ne l'a pas demandé à toutes les personnes qui sont venues avec lui. À ses disciples ou aux autres, il ne leur a pas demandé de faire ceci. À ce riche, à cette personne, il le lui a demandé. Je ne sais pas pourquoi, mais il le lui a demandé à lui, pas aux autres. Les disciples n'ont jamais institué cette demande comme étant une doctrine. Vous lisez tout le Nouveau Testament, toute la Nouvelle Alliance, tous les livres du Nouveau Testament, vous n'en trouverez pas, à part Actes, on va y revenir. Et même Paul, il écrit à Philémon, qui était quelqu'un de riche, et il avait des terres et des esclaves. Il ne lui a pas du tout demandé de tout vendre pour donner aux pauvres et de vivre dans la pauvreté. Jean écrit à Gaius et il prie pour qu'il prospère. Et quand on étudie ce mot, il ne prospère pas uniquement en spiritualité, mais aussi dans sa vie. Et c'était quelqu'un de riche, parce que ce soit Paul ou que ce soit Jean, quand ils écrivent à Philémon ou à Gaius, il leur dit « Je vais venir, prépare-moi un logement ». Donc ce n'était pas n'importe qui. Ils n'ont jamais institué cette demande. Et Zachée était un homme riche aussi. Et il ne lui a pas été demandé de distribuer toutes ses richesses. Revenons à Actes. Actes chapitre 4, dans deux endroits, chapitre 2, versets 44-45, et chapitre 4, versets 34 et 35. Il nous est dit une chose, que les nouveaux convertis, ceux qui venaient à Jésus, ceux qui se convertissaient, ils vendaient tous leurs biens, c'était dit, il est distribué à ceux qui sont dans la pauvreté. Dans deux endroits différents, il nous est signalé. Actes chapitre 2, Actes chapitre 4. Mais là, il faut savoir une chose. Premièrement, ce passage, c'est un passage, ce qu'on appelle descriptif et pas prescriptif ou normatif. Souvent, on mélange l'histoire telle qu'elle nous est racontée par comment les gens ont agi ou ont réagi et à en faire une doctrine après cela. Les endroits où il faut comprendre comme étant doctrine, Paul, Pierre, Jean, Jacques, ainsi de suite, même Jésus, l'ont dit clairement, institué, répété à plusieurs reprises. Le passage dans Actes ne fait que relater ce qui s'est passé pendant un moment donné de l'histoire de l'Église. Il n'en met pas une norme, ce n'est pas une théologie, ce n'est pas quelque chose de normatif. Et leur mise en commun de leurs biens était volontaire et pas obligatoire. Aux magiciens, parce que ça fait partie juste du chapitre 4 après ceci, quand le magicien Simon avait vu ça, il a fait pareil, il a vendu un champ, il a gardé une partie, il a donné l'autre partie, et vous savez ce qui s'est passé. Et que lui dit Pierre? Il lui dit, mais tout ce que tu avais était pour toi, on ne t'a rien demandé de donner. Ananias. Oui, Saphira, Ananias et Saphira. On ne t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé. Donc, ce n'était pas une norme. C'était quelque chose d'acte de volontaire. Et les commentateurs, ils précisent bien, les sec verbes sont à l'imparfait. Un temps qui implique une action qui dure et qui se répète. Donc, il vendait, il distribuait, il apportait le produit, il le donnait aux apôtres. Mais ce que le texte dit juste après, que quand même, ils se réunissaient dans les maisons. Donc, s'ils vendaient toutes leurs propriétés, qu'ils n'avaient plus rien, je me demande où est-ce qu'ils vont vivre après. Et comment ils peuvent se réunir dans leur maison? Donc, ça comprend, comment on peut le comprendre? On peut le comprendre que quand il y avait un besoin précis, et ce moment, c'était un besoin précis pour l'Église. L'Église de Jérusalem, c'était l'Église la plus pauvre de Judée. Donc, ceux qui avaient des biens vendaient quelques-uns de ces biens et les mettaient en commun. Mais ce n'était pas tout vendre, tout donner et revivre comme ça. Donc, deux choses différentes. Voilà un petit peu pour revenir à la question qui a été posée par Gabriel la semaine dernière, faut-il tout vendre? Faut-il tout vendre? Le Seigneur n'a pas l'intention de nous prendre avec force ce que nous n'avons pas voulu lui donner. Ce n'est pas non plus de son intention de nous prendre d'une main ce qu'il nous a donné de l'autre. Par contre, il nous redonne d'une main ce qu'on lui a donné de l'autre. Et là, il le redonne au centuple. Non, Dieu ne nous force pas à donner d'une main ce qu'il nous donne de l'autre. Par contre, ce qu'on lui donne d'une main, il nous le rend au centuple par l'autre. Et c'est ça la promesse de Dieu. C'est là ce que veut Dieu. Dans le fond. Quand le Seigneur a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, jette-la dehors. Il a dit, si ton œil est pour toi. Il n'a pas dit à tout le monde de crever les yeux. Parce que tout le monde, son œil n'est pas pour lui une occasion de chute. Mais si ton œil est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux que tu l'enlèves et que tu le jettes. C'est exactement pareil. Si le travail, la richesse, les biens matériels sont pour nous une occasion de chute, mais c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on sache s'en débarrasser ou mettre un point à l'accumulation de l'argent et à la recherche de l'argent. C'est là où il faut le faire. Et dans le fond, tout est question de rendement. Où est-ce qu'on met notre argent? Tout est question de rendement, donné sans retour. Mais j'aurais aimé qu'on ne s'arrête pas uniquement sur ce, telle que la manière dont je l'ai expliqué. J'aimerais qu'on aille juste quelques minutes, pas beaucoup, quelques minutes, un peu au-delà et raisonner au-delà de ce que peut signifier directement ce verset. J'étais étonnée de lire que les Juifs et les premiers chrétiens, comme application de ce verset, ils appliquaient pour tout bienfait que l'on accomplit sans calcul en faveur des inconnus. J'ai un peu parlé d'argent, d'ailleurs beaucoup parlé d'argent aux pauvres. Mais les Juifs et les chrétiens, les premiers chrétiens, le comprenaient comme tout bienfait tout bienfait, pas uniquement matériel, que l'on accomplit sans calcul en faveur des inconnus. On n'est pas riche que par l'argent. Oui, il y a des gens qui sont riches par l'argent et pauvres par d'autres choses. Peut-être par leur vie de famille, ou on ne sait pas. Mais il y en a qui sont riches par autre chose, par les différents dons que Dieu, que le Seigneur leur a accordés. Est-ce que ce verset n'est pas en train de nous inciter aussi à les mettre au service des autres sans attendre à un retour? Combien des fois, excusez-moi de le dire, mais vous me permettez de le dire, combien des fois j'ai entendu dire des gens qui disent « Tout ce que je fais n'est pour rien, il n'y a même pas un merci, même pas un retour. » Je me tais, mais si vous savez tout ce que j'ai envie de dire, et je vais le dire aujourd'hui, mais pour qui on le fait? On le fait pour avoir un retour? Je ne veux pas à ce moment-là le jeter sur la face des eaux, autant que je le sème directement dans une terre qui peut porter du fruit. Et je n'ai pas la peine de jeter, il faut semer. Je le jette pour le faire pour le service de Dieu ou pour avoir un retour? Pour qu'on me dise merci, t'as bien fait. Ah merci, heureusement que tu y es là pour le faire. J'exagère, oui. La reconnaissance, il faut en prêcher sur la reconnaissance. Oui, je ne la mets pas en doute. Mon devoir de chrétien est de reconnaître ce que fait la personne en face de moi. Mais le devoir de la personne qui fait le service, c'est de le faire pour Dieu et de ne pas s'attendre à une reconnaissance. Excusez-moi de le dire et d'y insister. Peut-être je me trompe, mais c'est ma pensée. C'est ma pensée. Dieu me jugera sur ce que j'ai fait. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, chacun sera jugé selon ses œuvres. Si je ne fais pas le bien avec le don que Dieu me donne, il me jugera. Je ne pourrai pas lui dire, oh, je l'ai fait, mais personne ne m'a remercié, c'est que des ingrats dans notre église. Excusez-moi, vous n'y êtes pas ingrats. J'exagère, hein? Je suis en train juste d'exagérer. Pour que vous compreniez ce que je veux dire. Il me dira, mais c'est leur problème. Ton problème, ce que je t'ai donné, tu ne l'as pas donné à ceux qui sont dans le besoin. Mais plus tard, il dira aux autres, mais vous aurez dû reconnaître, avoir de la reconnaissance envers les personnes qui ont servi parmi vous, entre vous. Mais chacun a son problème, chacun selon son jugement devant Dieu. Jette ton pain, tout ce que le don que Dieu, toutes les richesses que Dieu t'a données. Et il ne nous a pas donné que de l'argent, vous le savez bien. Combien des gens sont riches rien que par leur sourire quand ils sont à l'accueil. Donner sans retour. Donner sans retour. Sans avoir de retour. J'ai mis un petit peu en vrac quelques idées. Donner sans retour, la miséricorde, le soutien, la consolation, consoler les autres. Il y en a qui ont ce don de consoler les autres. Et s'ils vont passer tout leur temps à être consolés, ils disent, mais quel retour je vais avoir? Dieu ne le demande pas, il demande de faire la richesse qu'il nous a donnée. Compatissant, le travail dans l'Église, quel que soit le travail dans l'Église, etc., etc. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. C'est pas peut-être, c'est pas probablement un jour. Soyez donc miséricordieux. Heureux les consolateurs, car ils seront consolés. Je les ai eu en tête ces versets, mais je suis sûr que vous pouvez en trouver beaucoup d'autres et bien d'autres encore. Jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. C'est une promesse de Dieu. Le temps passe, j'ai promis de ne faire que 20 minutes, mais je n'ai pas tenu ma promesse. Bien au-delà, désolé Emmanuel. Mais conclusion, que peut-on conclure? Que peut-on conclure aujourd'hui? Apprenons à servir et à donner dans la gratuité, dans la générosité, sans retour. Je n'ai pas parlé que de richesse, hein? Je l'inclus, j'inclus l'argent, mais tout service. tout service que Dieu nous donne. Apprenons à servir et à donner dans la gratuité, avec générosité, largesse. Galates 6, 9, 10, ne nous lassons pas de faire le bien. Pratiquons le bien envers tous, pendant que nous en avons l'occasion. Quand peut-être on sera très vieux, qu'on ne pourra plus lire, qu'on ne pourra plus parler, peut-être on ne pourra plus rien faire, peut-être que prier. C'est ce qu'elle faisait Madame Grimal, quand elle ne pouvait plus rien faire. Mais pendant qu'on a encore le temps, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Et on ne peut pas conclure sans citer Paul, qui cite Jésus, et là j'arrête, Actes 20, 35, quand il réunit les anciens d'Éphèse. La plus belle phrase peut-être qu'il leur a laissée, il en fait référence à une parole de Jésus. Se rappeler les paroles du Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je peux vous promettre que si un jour vous avez bien compris la signification de cette phrase, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous allez voir, votre vie va changer complètement. C'est la parole du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous ne pouvons que reconnaître notre désarroi devant toi parce qu'il est vrai que notre nature humaine cherche toujours la récompense, la gloire, le remerciement, mais on ne sait pas regarder vers l'essentiel, ce que tu nous demandes, de vivre pour les autres, d'être des lumières dans ce monde. Seigneur, je ne veux pas beaucoup parler, nous ne voulons pas beaucoup parler ce matin pendant notre prière, juste nous voulons te dire, apprends-nous à être transformés par ces paroles que tu as voulu nous en parler ce matin, nous dire. Apprends-nous à comprendre, à vivre cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen.